remercions le Seigneur qui nous a permis encore ce soir d'être là pour partager la pensée de Dieu. Je ne sais pas si hier, il y a des personnes qui ont été bénies. Si vous avez été bénis, acclamez quand même le Seigneur. Si vous avez été bénis, manifestez par la joie. Si vous avez été bénis, acclamez royalement le Seigneur. Royalement le Seigneur. Royalement le Seigneur. Lorsqu'on acclame royalement le Seigneur, ça dit, on reconnaît qu'il est le seul Seigneur qui est assis sur le trône. C'est lui qui a la divinité. Et je reconnais que ma dignité n'a rien à voir devant sa divinité. C'est pourquoi on l'acclame. Acclamons très fort le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. On acclame le lion de la tribu de Juda. On acclame celle... Oh! Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous allons décoller petit à petit. Avec le décalage, il y a encore dans ma tête des choses. Je ne sais pas si je suis aux États-Unis ou bien en Suisse. Ça perturbe encore, mais je crois que d'ici là, je vais décoller. J'aime bien décoller. Et on va décoller. Pour le moment, nous sommes en train de préparer le terrain. Donc, je crois que hier, nous avons parlé avec un langage très facile pour que les gens comprennent bien les choses. Lorsqu'il y a le mystère de révélation, les choses deviennent plus faciles. Quelqu'un peut dire que ça a été simple. Oui, c'est parce qu'il y a la révélation. L'homme qui n'a pas la révélation peut compliquer le message. Un message simple devient compliqué. Donc, nous avons parlé hier du mystère caché de la femme sauvée. Il y avait combien de mystères? Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Ah, j'ai compris. Ça, c'est très bien. J'ai béni le Seigneur parce que le message est passé. Ce soir, nous allons partager encore une pensée de Dieu que j'intitule le mystère. Je parle beaucoup de mystère et de révélation. Dieu m'a fait grâce de parler de ces choses. Le mystère et de révélation. Mystère de la restauration. C'est ça notre thème de ce soir. Nous allons nous mettre debout et on va nous faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 19, 25 à 27. Nous nous mettons debout pour faire la lecture de la parole. Je crois qu'il y a une personne qui va nous faire la lecture, mais nous nous mettons tous debout. Donne le micro, comme ça passe dans...
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi.
J'aime cette partie. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Veuillez vous asseoir. Saint-Esprit de Dieu, je viens encore ce soir devant de toi. Je m'efface. Je veux que toi tu croisses, que toi tu parles. Je ne connais pas les besoins de tout un chacun ce soir, mais toi tu es celui qui dispatche les choses, la connaissance, la révélation, selon le bon vouloir qui vient de toi. Voilà pourquoi je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Brille ma langue. Utilise ma bouche. Parle dans le cœur de mon frère. Au nom de Jésus. Seigneur, je lève ton saint nom. Prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Le mystère de la restauration. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, nous pouvons chanter, louer le Seigneur. Dire tout ce que nous voulons du Seigneur, c'est très bien. Mais il y a une chose, chacun de nous a une situation personnelle et particulière de sa vie. Tel que nous sommes là, il y a les gens qui sont bénis, sur le plan de finances peut-être. D'autres sont bénis, se sont mariés, d'autres ont des séjours. D'autres n'ont pas de séjour, d'autres pas de mariage. D'autres, les choses n'avancent pas. Et j'ai toujours expliqué aux gens pour dire qu'à un certain moment, chacun de nous doit s'arrêter pour se demander d'où je viens et d'où je vais. À un moment, on doit se poser la question, si ma vie réellement, je vis la vie que Dieu veut de moi. Est-ce que la vie que j'ai, c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté que l'ennemi m'a imposée? Ma Bible me dit ceci, je souhaite que vous prospérez à tous égards, que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. La volonté de Dieu, c'est de voir tout un chacun de nous prospérer à tous égards. La médiocrité n'est pas la volonté de Dieu. Les échecs, tout ce que nous vivons de négatif, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est positif. Dieu veut que nous réussissions, que nous ayons de l'avant, que nous réussissions marchant de succès en succès et de gloire en gloire. Mais nous avons un ennemi, le diable, qui ne veut pas que nous marchions de succès en succès. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, la plupart du temps, nous acceptons la vie que l'ennemi nous a imposée. J'aimerais vous dire que parmi vous, il y a des personnes que Dieu a appelées à une grande vie, à une grande réussite, à le plus, à être des femmes et des hommes qui peuvent défier le monde, faire de grandes choses. Mais parce que nous n'avons pas la révélation de notre vie, parce que nous n'avons pas compris ce qu'est la volonté de Dieu, des fois nous acceptons certaines situations comme le mode de vie. Voilà pourquoi on peut demeurer dans une situation sans pour autant comprendre. La première des choses de tout un enfant de Dieu, c'est chercher la restauration de sa vie, la délivrance de sa vie, afin qu'il marche de succès en succès. Cette promesse n'est pas pour une catégorie de personnes, mais c'est pour tout un chacun de nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu ne prends pas conscience de ta vie, personne ne le fera à ta place. Est-ce que vous comprenez cela? Chacun de nous doit prendre conscience de sa vie. Notre vie chrétienne, notre vie professionnelle, notre vie estudiantine, tout ce que notre vie spirituelle. C'est à ce moment-là que la sagesse commence dans la vie de tout un chacun de nous. Je ne suis pas tellement d'accord souvent quand je vois le chrétien qui prie, mais leur vie est médiocre, ils ne progressent pas. Donc vous savez, lorsque ça ne marche pas, nous en tant que chrétiens, nous n'avons pas, nous sommes incapables de convaincre même le païen de venir vers nous. Vous savez, nous ne prêchons pas toujours par la parole, mais nous pouvons aussi prêcher par notre façon de vivre, notre façon de se comporter et notre réussite dans la vie. Parce que le même Jésus, lorsqu'il prêchait, il y avait des pays, il dit, même si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez au moins à ce que vous voyez. Lorsque les gens verront que nous prospérons, il y a même les païens qui peuvent accepter le Seigneur. Bien-aimés, nous avons accepté à être trop spirituels, plus même que le Saint-Esprit, alors que nous avons le pied sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, lorsque nous parlons de la restauration, le Bourget dit qu'on ne peut pas parler de la restauration si tout va bien. Restauration veut dire réparation. On ne peut pas réparer ce qui est bien, mais on répare ce qui a été détruit. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voyons l'histoire de Job. Job, un homme que vous connaissez, un homme intègre, que Dieu même a témoigné. Mais à un certain moment, l'ennemi est venu, le diable est allé voir Dieu pour dire, cet homme t'aime parce qu'il est bien, il vit bien. Si tu lui retires ce qu'il a, la richesse, la santé, il va te renier. Mais Job n'a pas renié Dieu. Alors, Job a été détruit. Vous savez, Dieu a dit à Satan, tu peux toucher cet homme, mais pas son âme. J'aimerais te dire, lorsque le diable, tu lui donnes la main, il t'arrache le bras. Tu lui donnes le pied, il t'arrache la jambe. Donc voilà, lorsque Dieu a dit, tu peux seulement toucher son cœur, et non son corps, et non son cœur. Il y a beaucoup de gens qui polémiquent là-dessus pour dire comment Dieu peut permettre que le diable aille toucher Job. J'aimerais vous dire, c'est un enseignement. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui passent certaines situations, soit des souffrances, pas qu'ils ont péché, mais tout simplement, Dieu prend ces gens comme un enseignement pour nous. Donc, leur situation devient comme un modèle, comme un enseignement. Quel est le péché que Job avait commis? Aucun péché. Mais Job a souffert. Dieu voulait nous donner un enseignement au travers de cet homme. Est-ce que vous comprenez cela? Ne dites pas que, mais pourquoi Dieu a permis? Oui, Dieu peut permettre, parce que la Bible nous dit, Dieu crée chaque chose pour un but, même le méchant pour les jours de malheur. Si le Seigneur veut te punir, il va susciter les voleurs, il va susciter les mauvais pour te faire du mal. Parce qu'il a dit, il crée chaque chose pour un but, même le méchant pour les jours de ton malheur. N'avez-vous jamais vu Certaines personnes vous font du mal. Vous priez, vous gênez, ces gens ne meurent pas, mais ils prospèrent toujours. Il y a certaines choses que Dieu permet. Si Dieu veut te frapper, il ne va pas susciter un chrétien. Il va prendre quelqu'un méchant pour venir te frapper. Dieu peut le permettre. Tu pries, tu gênes, il vit, il ne meurt pas parce que c'est Dieu qui a permis cela. Vous comprenez cela? Dieu, s'il veut nous corriger, il peut permettre certaines choses. Mais pas pour toucher à notre cœur pour mourir, à notre âme plutôt, mais tout simplement pour nous corriger. Amen. Alors, Job a connu ce temps difficile. Mais le langage de Job, c'est un langage exceptionnel. Au lieu que Job maudit Dieu, au lieu que Job parle mal de Dieu, il dit une chose, je sais une chose, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, je ne sais pas si tu passes des moments très difficiles. Vous savez, il y a des moments où on passe des moments très difficiles. On est déconnecté, on est désorienté, on est déboussolé, on est déséquilibré, déshydraté, détruit, décontinencé. Tous les dés de la vie sur ta vie, tu te demandes si quel péché a-t-il commis. Désorienté, déboussolé, détruit, déprimé, déconnecté, déboussolé, déshydraté, tous les dés là dans ta vie. Tu dis, mais qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que pendant ce temps tu peux glorifier le Seigneur? C'est ça le problème. Nous n'aimons pas Dieu seulement lorsque tout va bien. Même quand tout ne va pas bien, nous continuons à aimer le Seigneur. Job dit, je sais une chose, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Le mystère de la restauration. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans la Bible que nous connaissons, dont leur vie était détruite, mais que Dieu a restauré par sa grâce. Même parmi nous, il y a des gens qui étaient malades, les gens qui ont eu des problèmes très difficiles, mais que Dieu a restauré. La restauration veut dire réparation, veut dire délivrance, veut dire libération, veut dire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été détruite, mais que Dieu vient de réparer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a quatre mystères que j'ai encore ce soir. Comment sortir d'une situation de blocage, surtout le plan spirituel, matériel, professionnel, même sur le plan de ta santé? Comment sortir de la médiocrité? Comment sortir de la vie que l'ennemi t'a imposée? Comment sortir de la vie de la médiocrité que ta famille t'a imposée? Il y a quatre mystères. Le premier mystère, c'est le mystère que j'appelle l'assurance prophétique. L'assurance prophétique. Il y a deux mots. Il y a assurance. Et puis, il y a prophétique. Lorsqu'on parle de prophétique, ça vient du mot prophétie, qui veut dire quelque chose qui doit arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Quelque chose qui doit arriver. Ici, nous parlons de l'assurance prophétique. On ne peut pas parler de l'assurance sans parler de la foi. La Bible nous dit ceci. La foi est une ferme assurance. Est-ce que vous comprenez? Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un bon témoignage. Dans la définition de la foi, on nous parle de l'assurance. Une ferme assurance. Lorsque nous parlons de l'assurance prophétique, c'est-à-dire, quoi que tu passes de temps difficile, quoi que tu vis dans une situation de blocage, quoi que tu vis dans une situation sans issue, une chose est vraie, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Est-ce que vous comprenez cela? La parole de Dieu est la prophétie par excellence, et je sais que dans cette parole, Dieu ne m'a pas promis la mort, mais il m'a promis la restauration. Alors je dois croire, être rassuré, que quelle que soit ma situation, Dieu va me faire quoi? Va me restaurer. Cette assurance prophétique, c'est une assurance ferme que personne ne peut détruire de ma vie. Lorsque j'ai l'assurance, lorsque je crois ma guérison, lorsque je crois ma délivrance, Donc, je suis rassuré. J'ai cette assurance, conviction que cela sera possible. Et personne autre ne peut me détruire cela. Donc, c'est une assurance solide. Tu ne peux pas sortir de la situation de blocage, de maladie, si tu ne crois pas et si tu n'as pas l'assurance de la guérison, de la restauration. Est-ce que vous comprenez très bien? La première des choses, c'est croire. Bien aimé, la clé de réussite, c'est la foi. Un homme sans foi, un chrétien sans foi, je ne sais pas s'il est quel chrétien. Le véritable chrétien, c'est le véritable sans foi. Même Jésus, la plupart des temps, quand il guérissait, dit, ta foi t'a sauvé. Jésus lui-même dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Bien aimé, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'assurance de quelque chose que tu espères, tu n'entreras pas en possession de cette chose. Est-ce que je me fais comprendre? Hébreux chapitre 10, 35 à 36. Quelqu'un peut nous lire rapidement, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, 35 à 36.
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Est-ce que vous comprenez cela? N'abandonnez pas votre assurance, même sur le plan de ta santé. Comment sortir de la médiocrité? Comment sortir de la vie que l'ennemi t'a imposée? Comment sortir de la vie de la médiocrité que ta famille t'a imposée? Il y a quatre. Mystère. Le premier mystère, c'est le mystère que j'appelle l'assurance prophétique. L'assurance prophétique. Il y a des mots. Il y a assurance et puis il y a prophétique. Lorsqu'on parle de prophétique, ça vient du mot prophétie, qui veut dire quelque chose qui doit arriver. Est-ce que je me fais comprendre? Quelque chose qui doit arriver. Ici, nous parlons de l'assurance prophétique. On ne peut pas parler de l'assurance sans parler de la foi. La Bible nous dit ceci. La foi est une ferme assurance. Est-ce que vous comprenez? Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un bon témoignage. Dans la définition de la foi, on nous parle de l'assurance. Une ferme assurance. Lorsque nous parlons de l'assurance prophétique, c'est-à-dire, quoi que tu passes de temps difficile, quoi que tu vis dans une situation de blocage, quoi que tu vis dans une situation sans issue, une chose est vraie, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Est-ce que vous comprenez cela? La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Et je sais que dans cette parole, Dieu ne m'a pas promis la mort, mais il m'a promis la restauration. Alors je dois croire, être rassuré, que quelle que soit ma situation, Dieu va me faire quoi? Va me restaurer. Cette assurance prophétique, c'est une assurance ferme que personne ne peut détruire de ma vie. Lorsque j'ai l'assurance, lorsque je crois ma guérison, lorsque je crois ma délivrance, donc je suis rassuré. J'ai cette assurance, conviction que cela sera possible. Et personne autre ne peut me détruire cela. Donc c'est une assurance solide. Tu ne peux pas sortir de la situation de blocage, de maladie, si tu ne crois pas et si tu n'as pas l'assurance de la guérison, de la restauration. Est-ce que vous comprenez très bien? La première des choses, c'est croire. Bien aimé, la clé de réussite, c'est la foi. Un homme sans foi, un chrétien sans foi, je ne sais pas s'il est quel chrétien. Le véritable chrétien, c'est le véritable sans foi. Même Jésus, la plupart des temps, quand il guérissait, dit, ta foi t'a sauvé. Jésus lui-même dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu la foi? Bien aimé, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'assurance de quelque chose que tu espères, tu n'entreras pas en possession de cette chose. Est-ce que je me fais comprendre? Hébreux chapitre 10, 35 à 36. Quelqu'un peut nous lire rapidement, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, 35 à 36.
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis.
Est-ce que vous comprenez cela? N'abandonnez pas votre assurance. Bien-aimé, vous savez, ce que le diable nous vole souvent pour nous éloigner de notre Dieu, c'est nous voler notre assurance et notre foi. Ici, la Bible nous dit, n'abandonnez pas, donc, pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tout ce qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas l'assurance, tu n'es pas agréable à Dieu. Aimer Dieu, qui a déjà vu Jésus? Qui a déjà vu Jésus, ce qui me dit? Il l'a rencontré sur quel avenir, je ne sais pas quel avenir, quel quartier, quel état. Personne. Mais nous croyons en Jésus, c'est par le moyen de la foi. Et nous avons cette assurance de la foi que nous pouvons convaincre aux autres que Dieu existe. Hier, nous avons vu le verset de 2 Timothée 3, 16, 17. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Dans la parole, on peut corriger, on peut convaincre, on peut tout. Mais pour le faire, il faut avoir l'assurance et la foi. Amen. 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 Donc, l'assurance ferme que tu dois avoir. Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Césarée, la Bible dit, il entra dans la ville où il était né, on lui rema le rouleau, il l'ouvra, il trouva là où c'est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés et les aveugles le recouvrement de vie. » À la fin, il dit, « Aujourd'hui, cette parole de prophétie est fait quoi? Est accomplie. » C'est-à-dire que Jésus était venu d'abord lui-même pour dire que ce qui a été dit doit s'accomplir. Parce que toute prophétie qui a été prononcée dans ta vie, l'homme de Dieu a prophétisé sur toi, tu as une prophétie quelconque sur ta vie. Tu dois savoir que cela va s'accomplir. Habakkuk dit, écris cette prophétie, grave-la dans le cœur de ton cœur, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, attends-la. Car il finira par s'accomplir et s'accomplira certainement. On dit bien certainement. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent faire que ce qui t'a été promis puisse retarder. Ça peut retarder. Mais cela ne veut pas dire que parce que ça tarde, ça ne finira pas s'accomplir. Donc, tu dois avoir une assurance que ce que Dieu m'a promis, quoi que comment, ça finira par s'accomplir. J'aimerais vous dire une chose. Entre la promesse de Dieu et l'accomplissement, il y a un travail à faire. Vous savez, lorsque Dieu te promet, il te dit ce que tu es, ce que tu vas devenir, mais ne te dit pas ce qui va se passer entre la prophétie et l'accomplissement. C'est là où il y a des problèmes. Dieu m'a dit que je deviendrai. Ok. Mais maintenant, entre la promesse et l'accomplissement, il y a du travail à faire. Il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les découragements, il y a toutes ces choses qui viennent. Mais l'homme qui tend la restauration, il a l'assurance. Il dit, quoi qu'il y a des problèmes, ce qui m'a été dit finira par ça s'accomplir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est pourquoi Job, malgré la souffrance, il n'a pas regardé tout ce qui était autour de lui. Il dit, je sais une chose, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Si tu n'as pas le langage de l'assurance, de la foi, tu ne peux pas sortir de ta situation. Même si tu atteins un grand ministère, tu ne peux pas arriver là. Pour arriver, il faut avoir une assurance ferme. Dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Vous savez, lorsque tu parles, toi-même tu n'es pas convaincu, les gens ne seront jamais convaincus. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lorsque tu parles avec assurance, la parole que tu es en train de prêcher va rassurer aussi les autres et le miracle va s'opérer. Est-ce que je me fais comprendre? L'assurance a une très grande importance dans la vie de tout un chacun. Amen. 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 Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul, l'homme avec la qu'est-ce qu'on dit, le boss ou la bosse. Vous corrigez puis. Il avait son histoire sur le dos. Malgré tout ce que cet homme pouvait faire, intellectuel, un homme hors du commun, un homme extraordinaire, un homme qui pouvait faire des déclarations que les autres ne pouvaient pas faire, cet homme pouvait se lever un jour et dire, s'il y a des hommes, des personnes qui veulent se glorifier, qui se glorifient dans le Seigneur. Si c'est dans la chair, je suis le plus favorable. Je suis circoncis le huitième jour. Je suis de la tribu de Benjamin. Quant à la race, de la race d'Israël. Je suis hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs. À la fin, il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je l'ai considéré comme perte à cause de Christ. Et comme considéré, comme perte à cause de l'excellence de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de lui, je peux considérer tout comme de perte à cause de Jésus. Voilà que cet homme qui peut faire sa déclaration, mais il avait un problème sur son dos. Amen. Lui-même, quand il a demandé à Jésus de le guérir, il dit, ma grâce te suffit. Vous savez, il y a des choses parfois difficiles à expliquer. Mais cet homme, à la fin des choses, il vient faire encore une déclaration dans le livre de Romains chapitre 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce la persécution? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? C'est à cause de lui que nous sommes frappés et comme des brebis et destinés dans la boucherie. Et il continue pour dire, j'ai l'assurance. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni toute autre créature, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une assurance. Est-ce que vous comprenez cela? Quelle assurance? Ni les anges, ni les dominations, ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni toute autre créature, rien ne pourra me séparer de l'amour, malgré sa bosse. Il avait l'assurance qu'il avait dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne peux pas attendre la restauration si tu n'as pas l'assurance de ce que tu attends. Un homme de Dieu qui était venu dans notre église a donné ce témoignage. Il est venu de l'Afrique du Sud. Il dit, il y avait un homme qui avait aussi la bosse derrière. Et puis on a prié pour lui. Et puis quand il est sorti de la salle, il dit, je suis guéri de ma bosse. Bosse ou mon bosse ou ma bosse. On veut corriger, puis on passe. Les gens disent, mais tu n'as pas vu, mais ce n'est pas parti. Il dit, moi je suis guéri de ma bosse. Je ne suis plus mal, je n'ai pas la bosse, il n'y a rien. On lui dit, mais est-ce que tu es fou? Il dit, non, je ne suis pas fou. Je vous dis que je suis guéri de ma bosse. Une semaine. Mais il est devenu fou. Il dit, c'est vous le fou. Moi, je ne suis pas fou. Je vous dis que je suis guéri de ma bosse. Deux semaines. Troisième semaine. Mais est-ce que tu te regardes dans le miroir? Il dit, je n'ai pas besoin de me regarder dans le miroir car il n'y a rien sur mon dos. Je suis guéri de ma bosse. Quatrième semaine. On lui amène le miroir. Il dit, mais Vous voyez, mais je ne vois pas ça. C'est que je sais, je suis guéri de ma bosse. À la fin du mois, il n'y avait rien sur son dos. Est-ce que vous comprenez? L'assurance, ça veut dire que quand tu espères quelque chose, tu n'as pas besoin de voir. Lorsque tu espères pour toi, même si tu vois la chose, mais la chose n'existe pas. C'est pourquoi la foi, la définition est simple. C'est une ferme assurance des choses que j'espère. Tu espères quoi? Tu espères quoi? Parce que le problème, c'est ça. Si je demande ici, toi, tu espères quoi? Tu espères quoi? Il y a des gens qui disent que j'ai la foi, mais n'espèrent rien. Moi, j'espère beaucoup de millions. Parce que je veux devenir millionnaire. Mais écoutez, je n'ai pas besoin de demander votre foi. C'est ma foi à moi. Lorsque j'aurai des millions, c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. Je n'ai pas besoin que tu croies à ma place. Moi-même, je crois pour moi-même. Parce que ce que j'attends, c'est moi qui l'attends. Je ne te demande pas de me prêter ta foi. Je ne pas besoin, parce que si je te demande de prêter ta foi, tu vas me compliquer. Moi-même, j'ai ma foi. Je veux devenir millionnaire. Écoutez, vous pouvez croire ou ne pas croire, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui crois parce que je dors avec ça. Je me réveille. Des fois, il y a des moments où je me réveille, je dis, ah, j'ai les millions. Je dis, écoutez, c'est mon assurance. Et je vous dis que d'ici là, j'aurai des millions. Parce que j'ai dit que je ne mourrai pas. Donc, mon nom se trouvera parmi les millionnaires. Lorsqu'on va compter les Bill Gates, lorsqu'on compte les George Bush, lorsqu'on compte, à la fin, avant de clôturer, Joseph Chicha Wandindawak, millionnaire. Est-ce que ça, je suis sûr et je veux toucher les millions. Quel péché ai-je commis, moi, pour ne pas devenir millionnaire? Dis-moi, quel est le péché que moi j'ai commis pour ne pas devenir millionnaire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne suis pas bogard, moi? Est-ce que je n'ai pas l'air d'un millionnaire, moi? Mais pourquoi je ne peux pas le devenir? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché ai-je commis? Est-ce que malédiction, c'est mon nom? Pauvreté, c'est mon nom? Mais pourquoi je ne peux pas devenir millionnaire? Ceux qui ont eu des millions là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les avoir? Donc vous voyez, tout commence par la pensée. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la pensée. Si tu n'as pas la pensée de richesse, tu ne deviendras jamais riche. Si tu n'as pas la pensée de la grandeur, tu ne deviendras jamais grand. Tout commence par là, la pensée. Et tu crois à cela. Marche avec cela. Confesse cela. Cela deviendra possible. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne faut pas, si toi tu veux la médiocrité, c'est toi. Si tu as la foi des médiocrités, si tu as la foi des échecs, c'est toi. Moi j'ai la foi des millions. Amen. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est mon problème personnel. Et j'aurai ça au nom de qui? De Jésus. Tu vas me dire ça viendra où? Est-ce que c'est mon problème? Je n'ai pas besoin de demander d'où ça viendra. Qui me donnera le million? Mon problème c'est de les toucher et les compter. Amen. Notre Dieu, c'est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme cela existait. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Moi, je me mets derrière la parole. J'ai dit que tu as dit que tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme cela existe. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Colossiens? Notre Seigneur, il a créé le ciel et la terre. Les choses invisibles et les choses visibles. Trône, dignité, autorité et pouvoir. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste par lui. Qui a créé l'argent? Qui a créé l'or? Mais moi, je suis l'enfant de qui? Est-ce que je n'ai pas droit au million? Ah ben, je croyais que vous allez acclamer le Seigneur. Oh! Amen. Les Tidjé, si c'est Tidjé, Djekse, si c'est Tidjé, et ils ont fait quoi pour devenir ce qu'ils ont là? Non, non. Et réfléchissons à la manière des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez qu'ils ont gêné plus que nous? Est-ce qu'ils gênent même? Vous voyez? Ça dit, ils ont crié à devenir grand, c'est tout. Lorsque tu vois grand, tu deviens grand. Lorsque tu vois petit, tu demeures petit. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Je vais vous expliquer une chose. Écoute, ce n'est pas dans le thème, mais j'explique. Je peux ouvrir une parenthèse? La Bible dit ceci. Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est empauvri pour faire quoi? Pour nous rendre, nous, riches. Mais le travail est déjà fait. Mais là, c'est seulement question de comprendre que Dieu m'a déjà rendu riche. Je dois accepter cette richesse. Je dois croire dans cette richesse et j'entre dans cette richesse. Je marche maintenant avec le langage des richesses. Je me promène comme... Il y a des fois, des moments, quand je marche, moi-même, je dis millionnaire. Donc, je change un peu le démarche. Je dis le millionnaire marche. Comme des fois, Donc, je cherche le démarche de millionnaire. La foi, c'est la folie. Lorsque j'avais fait la délivrance d'une sorcière qui avait sacrifié 1 500 000 personnes, cette fille-là m'a dit une chose qui est biblique, mais que le monde des ténèbres utilise. Il me dit ceci. que lorsque c'était en Afrique, comme il avait sacrifié 1 million de personnes, alors il me dit ceci. S'il y a quelqu'un qui veut voyager en Europe, alors si je vais empêcher son voyage, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, par exemple, mon frère, tu viens. Ma soeur, tu viens. C'est un exemple, mais vous n'êtes pas marié. Hein? Prenons que lui, c'est le mari de la soeur. Tu es célibataire? Ok. Alors, où est ton mari? Viens, ton mari, viens, papa. Frère, il ne faut pas profiter. Hein? Faut pas profiter, frère. Voilà, c'est son mari. Maintenant, ils font leur projet dans leur chambre. Nous allons acheter une maison. Nous voulons voyager aller aux États-Unis. Ils ont parlé. Et deux. Cette dame, cette jeune fille-là, elle me dit ceci. Moi, je veux prendre deux personnes. C'est-à-dire qu'elle doit prendre deux personnes la nuit. Un homme avec une femme pour représenter ses couples. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, il prend n'importe qui, n'importe quelle fille dans leur monde de la sorcellerie. Il dit, toi, tu représentes ma soeur. Comment tu t'appelles? Bintou. Et puis, il prend le frère qui représente Olivier. Maintenant, il dit ceci, elle dit ceci. Je demande à deux personnes seulement de parler, de dire n'importe quoi. Donc, il suffit seulement d'ouvrir la bouche et parler. Lorsque les deux personnes commencent à parler, elle entend ceci, c'est l'homme qui parle, elle entend toutes les paroles que mon frère Olivier avait parlé la nuit. Lorsque la sœur, comme la femme, commence à parler, elle entend toutes les paroles que la sœur a parlé la nuit. C'est comme ça qu'elle pouvait maintenant passer pour aller bloquer ou détruire. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Où est-ce que vous comprenez cela? Et puis elle dit ceci. Si maintenant il faut un projet, par exemple, de voyager en Europe, pour maintenant, qu'est-ce que moi je fais la nuit? Je prends une personne qui le représente, elle prend une valise. Pour l'homme, la femme, une valise. Il dit, fais comme si vous voyagez. Tout le geste est là comme on voyage. Elle dit, pendant qu'ils font les gestes de voyager, moi maintenant je prends, vous voyez, quand vous regardez dans le film, je ne sais pas comment on appelle ça, jumelle ou quoi. Si on veut tirer sur quelqu'un de loin, comment on appelle? On regarde, on est en train de le localiser. Avant de tirer. Il dit, c'est comme ça qu'elle fait. Et puis, dans ce monde de ténèbres, elle tire, soit une flèche sur eux. Est-ce que vous comprenez cela? Ils arrivent ici, ils prennent leur avion, peut-être à la descente ou bien dans l'avion, quelque chose arrive et puis ils sont morts. Ils ne peuvent pas arriver en Europe. Si cette fille peut démontrer pour entrer dans le pensée de ces deux personnes, c'est une pensée de la Bible. Parce qu'elle est en train de démontrer ce qu'elle démontre devient une réalité. Or, la Bible nous dit dans la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, maintenant une démonstration. La plupart des chrétiens, nous croyons, mais nous ne démontrons pas. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que celui qui attend voyager, ou, comme aujourd'hui tu attends ton permis de séjour, tu dois te réveiller le matin, tu dis, j'ai déjà mon permis de séjour. Tu peux même écrire le nom de permis de séjour, ton nom, tu dis, voilà mon permis. C'est une démonstration. Moi, quand je démontre, quand je me réveille pour mes millions, je me réveille et puis je m'assois très bien comme un millionnaire et puis je commence à compter 100 000, je mets là-bas 100 000 dollars, 100 000, ça devient comme 900, 100 000, ça devient 1 million. Tu peux me trouver comme un fou. Je suis en train de démontrer ma foi. Il y a deux choses dans la foi. Espérer et démontrer. Toi, tu espères. Est-ce que tu as déjà démontré? Amen. Est-ce que tu as déjà démontré? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'était la première partie. Premier mystère. Deuxième mystère. Deuxième mystère, que j'intitule le mystère de les lunettes de Dieu, les lunettes spirituelles ou lunettes de Dieu. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le mieux, c'est écrire les lunettes de Dieu. Est-ce que Dieu porte des lunettes?
Non.
Hmm?
Non.
Dieu porte des lunettes ou pas? Est-ce que vous avez, importe quoi, est-ce que vous avez déjà vu d'abord les yeux de Dieu? Non. Mais comment vous dites qu'il ne porte pas de lunettes? C'est pourquoi nous parlons du mystère de révélation. Dieu aussi porte des lunettes. Lorsque nous parlons des lunettes de Dieu, Job dit ceci. Je n'ai pas limité mes yeux. Je n'ai pas limité mes yeux à regarder. Il dit qu'il n'a pas limité. Ça veut dire quoi? Job n'a pas limité ses yeux à ses souffrances. Est-ce que vous me comprenez? Job souffrait, mais il n'a pas limité ses yeux à sa situation de maladie. Mais Job a vu plus loin. Job a vu la restauration. C'est pourquoi il dit, mon rédempteur est vivant. Au lieu que Job puisse voir la situation dans laquelle il traverse. Vous savez que la situation de Job, j'aimerais vous dire sincèrement, même si on me dit, on me donne des millions pour avoir la situation de Job, je n'accepterai pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une situation que personne ne peut accepter. Si vous lisez plus loin, il dit que même ma chair s'est collée à mes os. Job, sa femme, lui a dit, maudit ton Dieu et tu meurs. Ses amis l'ont dit, mais qui est ce Dieu-là que toi tu sers, qui peut te laisser souffrir? Mais il dit, je n'ai pas limité mes yeux à voir mes souffrances. Mais mes yeux sont allés plus loin pour voir la grandeur de notre Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, mais c'est lui qui donne, c'est celui qui peut retirer. Sa femme lui a dit, maudit ton Dieu. Comme lui, il avait des lunettes. Les lunettes de Dieu veut dire que voir les choses comme Dieu le voit. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que pour que tu vois les choses comme Dieu le voit, il faut que tu portes les lunettes de Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu vois les choses comme Dieu le voit. Dieu ne voit pas la maladie, mais Dieu voit la guérison. Dieu ne voit pas les problèmes, mais Dieu voit des solutions. Dieu ne voit pas des questions, mais Dieu voit quoi? Il voit des réponses. C'est pourquoi lorsqu'on l'appelle, Moïse demande à Dieu, « Dis-moi, quel est ton nom ?» Il dit, « Je m'appelle Je suis. » Je suis. Comme notre Dieu s'appelle Je suis, on ne peut pas ajouter derrière Je suis ce qui est négatif. Parce qu'on ne peut pas dire je suis malade. Dieu n'a jamais été malade. Je suis pauvre. On ne peut pas ajouter le négatif au nom de je suis. C'est pourquoi je dirais je suis guéri, quoique malade. Parce que je sais que la maladie, c'est comme un visiteur qui est venu me visiter. Moi, je ne vois pas la maladie, mais je vois la guérison. Parce que mon Dieu s'appelle je suis. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis restauré. Je suis en bonne santé. Je ne dirai pas je suis malade. Parce que Dieu n'a jamais été malade. Dieu n'a jamais été pauvre. Dieu n'a jamais été négatif. Dieu est toujours positif. Quel est ton nom? Je m'appelle Je suis. Qu'est-ce qu'on peut ajouter au nom de Je suis? Pas Jésus, mais Je suis. Amen. Alors, il a vu là où les autres ne voyaient pas. Si tu veux entrer dans ta restauration, il faut changer la manière de voir les choses. Est-ce que vous comprenez cela? Ne voyez pas les choses comme tout le monde. On te pose la question ici, c'est quelle couleur? Les autres diront blanc. Toi, tu dis que moi, je vois vert. On va traiter d'un fou. C'est ça, la folie de Dieu. L'homme qui a les lunettes de Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde. Lui peut entrer ici, regarde et dit, oh là là, cette église de 2000 personnes. On va dire, mais 2000 vont entrer. Ça, c'est toi qui vois ça. Mais l'homme qui voit grand, voit au-delà de ce qui est là. Amen. Je me souviens, il y a 20 ans en arrière, j'étais invité au Congo-Brazzaville, et cet homme qui m'a invité pour la convention me dit, j'ai une église de 5000 personnes. Je vous dis, j'ai jeûné. J'ai dit, comme il y a 5, il faut qu'il y ait l'onction. J'ai jeûné 21 jours, j'ai même maigri. J'arrive, mais vous êtes nombreux. Frère, tu m'as fait souffrir pour rien. Et puis il me regarde et dit, ils vont venir. C'est 5000. Mais dis, mais ils vont se mettre où? Parce que tout ce qu'il dit, j'ai l'église de 5000 personnes.
Amen.
Amen. Il fallait du temps pour que je comprenne cela. Amen. J'étais un peu fâché sur place. J'ai prêché, un peu fâché. Parce qu'il m'a fait jeûner 21 jours. Mais plus tard, j'ai compris que c'était une personne qui voyait les choses autrement. Il croyait, il voyait grand. Bien aimé, on ne peut pas arriver au chiffre 10 sans commencer par chiffre 1, 2. On ne peut pas devenir 100 sans commencer par être 10. Si aujourd'hui il y a 50 personnes, vous ne croyez pas que demain on peut avoir 70 personnes? Vous ne croyez pas qu'on peut avoir 100? Si on est 50, ça dit qu'on n'a pas commencé 50. Peut-être c'est 10 personnes. Aujourd'hui c'est 50, c'est que demain ça peut devenir 100, 150, 200 et 300. Donc nous ne pouvons pas limiter Dieu. Mais nous devons voir comment Dieu voit les choses. Bien-aimé, moi j'étais un homme d'affaires beaucoup des années, avant de devenir serviteur de Dieu. J'ai toujours dit aux gens que lorsque vous faites les affaires, c'est comme j'ai expliqué dernièrement, on m'avait appelé en Suisse. J'ai dit que les affaires des Africains, c'est quoi? Frère, qu'est-ce que tu as envoyé en Afrique? Oh, je ne sais pas ce que vous achetez ici, comme en Europe, c'est juste les camions. J'ai acheté 3 camions et puis j'ai envoyé. L'autre frère, demain, il va aussi acheter 3 camions, il va envoyer en Afrique. Ça, c'est que l'affaire. Vous connaissez, il y a ce qu'on appelle en économie la loi de l'offre et de la demande. Si tout le monde envoie les camions, pour que moi je gagne de l'argent, je ne peux pas envoyer des camions. Je dois envoyer autre chose, je dois créer. Parce que je ne dois pas faire les choses comme tout le monde, voir les choses comme tout le monde. Nous avons l'habitude d'imiter ce que les autres ont fait. On ne crée jamais. L'homme de grande vision, il crée. Il va là où les autres ne voient pas. Job voyait au front de Dieu. Va au-delà. Il va là où les autres ne voient pas. Quand c'est noir, lui dit que c'est rouge. Là, on dit, il y a le mur. Il dit, il n'y a pas le mur. Il y a le passage. C'est ça la folie de l'homme qui a les lunettes de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la restauration si tu vois les choses comme tout le monde. Tout le monde envoie les camions. Tout le monde envoie les habits. J'ai dit même les habits que les gens envoient. Ça, ce sont des fausses affaires. Je vais vous faire réfléchir. Tu dépenses aujourd'hui 10 000 dollars. Tu ouvres un magasin en Côte d'Ivoire, Bénin, comme tu veux. Tu envoies des cartons, des habits. On écrit tout ça dans les cahiers. On te dit les chiffres d'affaires, 50 000. C'est très bien ça. Est-ce que tu peux toucher les 50 000 là? Est-ce que les habits, tu peux vendre tous les habits? Il y aura ce qu'on appelle les invendus. Tu vois, tu as les chiffres dans le cahier, mais tu ne peux pas toucher ça. Si tu as 100 pièces de pantalon, toi tu peux finir les 100 pièces. Tu vendras peut-être 50. Les 50, ça sera, tu vas solder. Finalement, tu le mets dans le cardot à côté. Mais tu peux faire autre chose. Tu dis au juge, tu décides de solder, tu as tout ton argent. Mais pour voir ça, il faut avoir une grande vision. Il faut voir comme les autres ne voient pas. L'homme de lunettes de Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde voit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Job a dit, je n'ai pas limité mes yeux. Parce que lui ne voit pas les choses comme tout le monde. Moi, je ne vois pas les choses comme tout le monde voit les choses. Lorsque tu attends ta restauration, ne vois pas les choses comme tout le monde, mais va au-delà des autres. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque Jésus dit à Pierre, marche sur les eaux. Qu'est-ce que Pierre a fait? Au lieu de regarder devant, il a regardé. Souvent, nous regardons les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Nous disons que la chose n'est pas faisable. Si la chose n'est pas faisable avec toi, mais avec Dieu, la chose est faisable. N'est-ce pas qu'il est écrit que rien n'est impossible à Dieu? Si rien n'est impossible à Dieu, et moi je porte les lettres de Dieu, je vois les choses comme Dieu le voit. C'est-à-dire la chose qui est impossible deviendra possible. Le problème de la vision, c'est un grand problème. Et il y a les gens qui aiment toujours prendre les exemples des gens qui ont échoué. Ne prenez pas les exemples des gens qui ont échoué. André veut dire André. Moi, je m'appelle Joseph, je ne m'appelle pas André. Si toi, tu as échoué, cela ne veut pas dire que moi, je vais échouer. Oh, tu sais, ici au Texas, les gens ne peuvent pas. Non, ça, c'est vous. Moi, je vois les choses autrement. Est-ce que... Mais ceux qui ont réussi là, comment ils ont réussi? C'est parce qu'ils ont pris le risque. pour qu'il y ait réussite. Dieu a toujours suscité un homme qui commence à réussir pour que les autres suivent. Si les autres ont joué, peut-être moi je serai le premier pour réussir. Alors si vous voyez les choses de cette manière-là, dans ta vie, tu vas changer beaucoup de choses. Il faut te voir grand, il faut te voir un grand homme. Je vais vous faire réfléchir. Ça, c'est entre nous. Vous êtes aux États-Unis. Entre nous et puis quelque part, Obama, avec sa peau noire comme ma peau. Même vous étiez aux États-Unis. Est-ce que vous croyez qu'Obama pouvait passer président? Qui le croyait? Personne. Mais Obama, lui, croyait à devenir président des États-Unis. Lorsque les gens voyaient sa peau, lui voyait la Maison Blanche. Vous voyez comment lui? Donc Obama marchait, voyait la Maison Blanche. Mais tout le monde regardait sa peau noire. Il ne peut pas passer. Racisme. C'est... Lui ne voyait pas ça. Lui voyait, moi, c'est la Maison Blanche. Quelle est ta vision? Tu vois quoi? Tu vois le million? Tu vois à devenir chef d'entreprise? Un grand homme de Dieu, une femme de... Est-ce que tu vois ça ou tu ne vois pas ça? Lorsque tu n'as pas cette manière de voir les choses, tu vas commencer seulement à combattre les autres. Vous savez, les gens qui n'ont pas de vision, leur travail, c'est combattre les autres. Quelqu'un s'élève, double patte. Quelqu'un s'élève, allez, prenez. Parce que lui ne peut rien faire. Mais c'est lui qui va loin. Il marche sur les autres pour entrer dans sa destinée. Amen. Les lunettes de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte les lunettes de Dieu ici? Dans tes affaires, porte les lunettes. À partir d'aujourd'hui, porte les lunettes de Dieu. Ne marche pas avec le langage négatif. Il faut avoir une très grande vision. On te dit, qu'est-ce qu'il y a là? Tu dis, je ne vois rien. Moi, je vois là-bas le passage. Je dis, mais il y a le mur. Il dit, non, moi, je ne vois pas le mur. Ici, aux États-Unis, ça ne peut pas marcher. Tu dis, non, moi, je sais que ça doit marcher. Qu'est-ce que tu penses? Je pense à devenir un grand homme dans ce pays. Je pense à devenir un grand serviteur, une grande servante de Dieu. Je pense à une grande église, notre église Génération de Vainqueurs. Nous pensons avoir une très grande salle plus que ça. Voilà, c'est ça la vision. Et ces choses finiront par arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lunettes de Dieu. Nous allons passer au troisième mystère. J'ai encore du temps, je pense. Pour sortir, pour être restauré, troisième mystère, c'est le mystère de l'entendement spirituel. Nous avons un grand problème, nous les chrétiens. Vous savez, des fois, quand on est pasteur d'une église, on est limité à prêcher certaines choses. Lorsqu'on dit certaines choses, les gens disent, ah, on a parlé de moi. Parce que la plupart des gens n'ont pas l'entendement spirituel, ils ont l'entendement charnel. Tu ne peux pas entrer dans ta restauration sans l'entendement spirituel. L'entendement spirituel, c'est quoi? S'entendre des choses d'une manière spirituelle. Lorsqu'on dit à Job, maudit ton Dieu, Job n'entendait pas ça. Dans son oreille, il entendait autre chose. Écoute ce que David dit. David dit ceci. Dieu a parlé une fois. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai entendu deux fois. L'entendement spirituel, tel que je prêche la parole, à tout le monde. Mais chacun de vous doit recevoir ce message différemment. Selon son problème, selon sa situation. Moi, je pars. Tu peux voir au moment où je prêche, peut-être une personne dans la salle en train de pleurer. Tu te demandes, mais elle pleure quoi? Ça veut dire qu'elle est en train d'entendre un autre son de trompette. David dit, Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai entendu deux fois. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu disait, mais j'entendais derrière ce qu'il disait, une révélation pour moi. Et le rhéma pour ma vie. L'entendement spirituel, c'est le rhéma de ta vie. Lorsqu'on prêche, tu es assis, tu entends que le Saint-Esprit est en train de te pointer et de te parler. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'Actes, tout le monde... Nous avons tous vu la lumière, mais celle, j'ai entendu la voix. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont vu tous la lumière. Avec les gens qui l'accompagnaient, il est tombé. Mais quant à la voix, c'est lui qui a entendu la voix. L'entendement spirituel, Si tu n'es pas arrivé à entendre des choses d'une manière spirituelle, on prêche la parole, tu l'entends d'une manière spirituelle, tu ne peux pas t'en sortir de ta situation. Un jour, j'ai prêché il y a quelques années. Je prêche, il y a un membre de l'église qui avait amené son oncle. Après avoir prêché, je me suis dit, « Oh, homme de Dieu, c'était bon, mais je regrette beaucoup parce que mon neveu, là, il t'a tout raconté. » Ce qui s'est passé à la maison. Moi, j'ai dit, mais oui, toi, tu crois que si on ne me racontait pas, j'allais dire ça. Il dit, voilà, c'est ce que je disais. J'ai dit, mais ce n'est pas ton cousin. Il y a quelqu'un qui m'a révélé tout ça. C'est le Saint-Esprit. Ah! Si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ce que nous prêchons, quoi? N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 12? Qu'est-ce qu'il dit? 12, il parle de dons spirituels. Le mystère, c'est Jésus, Dieu qui donne. Le miracle, c'est Dieu qui donne. À la fin, il parle du Saint-Esprit. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui distribue toutes choses selon son bon vouloir. Est-ce que vous comprenez cela? L'entendement spirituel, c'est lorsque tu y entends pas comme les autres. Lorsque la femme veuve de Sarepta, Dieu envoie Élie. Il dit, va chez cette femme, elle va te nourrir. Je ne sais pas, vous savez, les calculs de Dieu, des fois c'est compliqué. Il y avait beaucoup de femmes riches. Mais Dieu, il envoie l'homme de Dieu chez une femme veuve qui n'avait pas assez de moyens. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et j'aimerais te dire que si Dieu te pointe, malgré ta situation, de bénir l'œuvre de Dieu, bénir l'homme de Dieu, fais-le vite, parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend derrière. Dieu ne peut pas te pointer s'il est incapable de te bénir. Amen. La femme veuve, l'homme de Dieu arrive, il dit, prépare pour moi. La femme de Dieu, la femme dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il reste un peu de farine, un peu d'huile. Et puis nous allons manger, mon fils et moi, nous allons mourir. L'homme de Dieu ainsi se dit, prépare d'abord pour moi. La femme présente la mort devant l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a parlé pour la troisième fois, c'est maintenant que la femme a reçu ce qu'on appelle l'entendement spirituel. Là, elle n'a pas compris encore comme elle comprenait. Elle a compris maintenant la révélation qui dit, l'homme qui me demande à manger, il est porteur de bénédictions dans son ventre. Si je lui donne ce que je lui donne, il va maintenant déclencher les bénédictions sur ma vie. Il a reçu cette révélation. Il dit, non, cette fois-ci, je te donne. Et l'homme de Dieu mange. Tout est fini. Qu'est-ce qui est arrivé? Le miracle. La farine n'a pas manqué. L'huile n'a pas manqué. Tu vois, sans l'entendement spirituel, il est très difficile de recevoir ton miracle. Vous savez, il y a des moments où lorsque nous libérons l'onction dans la salle, il y a des gens qui regardent comme ça. Lorsqu'on parle, ils n'ont pas l'entendement spirituel pour saisir des choses. L'entendement spirituel a une grande importance dans la vie de toute personne pour sa délivrance. Tu dois entendre ce que les autres n'entendent pas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? L'entendement spirituel est très capital. C'est pourquoi il faut prier beaucoup. Si tu as toujours entendu les choses d'une manière charnelle, entendez d'une manière spirituelle. Si tu entends d'une manière spirituelle, tu vas entrer dans le monde de la spiritualité, dans le monde spirituel, et tu vas vivre le miracle de Dieu. Amen. Alors Job avait l'entendement spirituel. Même quand ses amis lui ont dit, mais c'est trop maudit ton Dieu, on t'abandonne. Il dit, je sais une chose, mon rédempteur est vivant. Parce qu'il avait notre entendement. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'entendement spirituel, c'est très important. Vous savez, nous avons des problèmes beaucoup à l'église parce que la plupart de nos frères et sœurs sont tellement charnels. Charnel. Homme charnel, femme charnel. On prêche à Voilà, parce qu'il connaît mon histoire. Ah, on dit, au lieu de dire le Saint-Esprit a parlé, ah, un jour je suis allé voir un homme de Dieu. Il dit, le Seigneur m'a dit qu'il t'aime beaucoup, mais tu dois encore multiplier la vie de prière. Tu veux me montrer que c'est toi qui prie beaucoup plus que moi? Parce qu'il n'avait pas l'entendement spirituel. Je lui dis, oh, excusez-moi, homme de Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc moi je ne prie pas. Tu veux dire que moi je ne prie pas? Donc Dieu t'envoie pour me dire que je prie. Ça dure, tu veux me montrer que toi tu pries beaucoup, moi je ne prie pas. Mais s'il avait l'entendement spirituel, il allait dire, je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur a pensé à moi. S'il me demande de multiplier ma vie de prière, c'est qu'il veut faire quelque chose. Mais quand on n'a pas l'entendement spirituel, on se fâche. On se fâche. Parce qu'on n'a pas l'entendement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. L'entendement spirituel, c'est quelque chose de très important. Amen. C'est pourquoi, dans le livre des Romains, chapitre, je crois, 12, hein, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour savoir, pour discerner ce qui est bien, parfait et quoi? Agréable. Lorsque nous ne sommes pas délivrés dans notre pensée, lorsque nos pensées ne sont pas encore délivrées, on peut penser, entendre les choses d'une manière contraire. Et la délivrance sera très loin. Amen. 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 Je passe aux quatrième et dernière révélation vu le temps. Nous avons dit que le premier mystère de la restauration, c'est quoi? Deuxième. Troisième, donc en réalité, lorsqu'on parle des lunettes de Dieu, ce n'est pas des portes de lunettes, ce sont des choses spirituelles. C'est pour dire qu'il faut voir les choses comme Dieu le voit. Hein? Il ne faut pas dire, ah, Dieu porte des lunettes, commence à discuter, Dieu porte des lunettes parce que le docteur avait des portes. Ce sont des choses spirituelles, c'est un langage. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu parle par les images et par le langage. Le dernier point, c'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Vous savez, l'entendement spirituel, c'est une chose. L'assurance, c'est une chose. Les lunettes, c'est une autre chose. Mais la sensibilité spirituelle, ça, c'est une autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on appelle sensibilité spirituelle?